Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité de ce mardi 15 mars 2022. En Australie, la ministre de l'Environnement, Susan Ley, remporte son jugement en appel. Le tribunal fédéral a estimé qu'elle n'avait pas le devoir de protéger les enfants contre les effets du changement climatique, contredisant donc un jugement de première instance qui avait été rendu il y a quelques mois et qui allait dans le sens de 8 adolescents qui avaient porté plainte contre la ministre suite à l'autorisation qu'elle avait accordée à une mine de charbon d'accroître ses capacités d'extraction. En Ukraine, malgré les difficultés opérationnelles rencontrées sur le terrain, la Russie réaffirme qu'elle n'est pas prête de quitter l'Ukraine. Son porte-parole est même allé jusqu'à dire que Moscou était prête à prendre le contrôle total du pays. Et puis en France, depuis hier, le protocole sanitaire anti-Covid est allégé. On ira voir comment ça se passe à l'école. C'est une énorme déception pour les défenseurs de l'environnement en Australie. Ce matin, une cour fédérale a annulé une décision rendue par un tribunal il y a quelques mois qui avait estimé que le gouvernement australien avait le devoir de protéger les enfants contre les effets du changement climatique. Cette action en justice avait été initiée par 8 adolescents et visait la ministre de l'Environnement, Susan Ley, le but étant de l'empêcher d'autoriser une mine de charbon de Nouvelle-Galles du Sud à accroître ses capacités de production. Le juge à cette époque n'avait pas empêché la ministre de délivrer cette fameuse autorisation, ce qu'elle a d'ailleurs fini par faire il y a quelques mois. En revanche, il avait établi que celle-ci avait donc le devoir de ne pas mettre en danger le futur des enfants en prenant des décisions qui pourraient entraîner un changement irréversible du climat. Une décision alors qualifiée d'historique et saluée partout à travers la planète, mais contre laquelle Susan Ley avait immédiatement fait appel. Elle a donc fini par obtenir aujourd'hui gain de cause. Aux grandes dames des jeunes qui avaient porté cette action en justice, ils ont fait part de leur déception en sortant du tribunal. David Ritter, le président de Greenpeace, note pour sa part que le tribunal a malgré tout reconnu que les dangers posés par le changement climatique étaient bien réels. C'est ce qu'il nous a dit juste avant le début de cette émission.
It is very notable that the full court of the federal court has acknowledged the truth of the threat posed by climate change to the future of Australia's children. So what this decision does is makes very clear that the threat is real, but as we know, the Australian government is continuing to fail to act, and that is putting the future of Australia's children and the children of the world in deep jeopardy.
Et la veille, Scott Morrison avait, lui, expliqué sur Sky News qu'il souhaitait que les centrales à charbon restent en activité aussi longtemps que possible et plus généralement que s'il était réélu, il continuerait à soutenir l'industrie du charbon dans son ensemble. Toujours au cours de cette même émission, il a estimé que la question centrale des prochaines élections fédérales sera celle de l'économie. Il a par ailleurs prévenu que les 3 à 10 prochaines années seront difficiles car l'Australie a souffert en raison de la pandémie de Covid-19.
What we're going to face over the next 10 years, I'd like to tell you that all of these other challenges will go away. They won't. It's going to be a tough next 10 years. It's going to be a tough next 3 years. And you need a government that knows how to keep our economy in good, strong shape.
En termes d'intention de vote, ce scrutin s'annonce plutôt mal pour Scott Morrison. La coalition a 10 points de retard sur les travaillistes. Actuellement, il recueille 55% des intentions de vote contre 45% donc pour la coalition. Par ailleurs, pour la première fois depuis le début de la pandémie, Anthony Albanese est désormais à égalité avec Scott Morrison en tant que Premier ministre préféré par les électeurs. Rappelons que pour l'instant, la date de ces élections fédérales n'a pas été annoncée. En revanche, il y a une autre élection qui arrive, elle, dès ce week-end en Australie méridionale. Là aussi, la partie s'annonce compliquée pour le leader actuel de l'État, Stephen Marshall, qui, comme Scott Morrison, est issu du Parti libéral. Si cet État devait tomber ce week-end dans l'escarcelle des travaillistes, cela signifierait pour Scott Morrison qu'il ne pourrait plus compter que sur deux États dirigés par des membres de sa propre formation politique, en l'occurrence la Nouvelle-Galles du Sud et la Tasmanie. Enfin, en marge des sanctions adoptées avec les autres puissances occidentales, l'Australie a annoncé aujourd'hui son intention de poursuivre la Russie en justice aux côtés des Pays-Bas, et ce en raison du crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines qui avait été abattu au-dessus du Donbass en 2014 par des séparatistes soutenus par le Kremlin. Un crash qui avait causé la mort des 298 passagers à bord, parmi lesquels se trouvaient 38 Australiens. Cette action en justice est menée devant l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'objectif étant de contraindre la Russie à revenir à la table des négociations et à accepter de verser des indemnités aux proches des victimes. La ministre de la Justice australienne, Michaela Cash, a rappelé que de précédentes tentatives de négociation avec la Russie avaient échoué.
We therefore call upon the International Civil Aviation Organization as the sole body that has jurisdiction to deal with this matter to fulfill its mandate and hold Russia to account for its egregious actions in downing flight MH17 and the tragic loss of life that has entailed.
Et au 20e jour de la guerre initiée par la Russie en Ukraine, les combats sont toujours aussi intenses. Aux grandes dames de Moscou qui ne s'attendaient pas à faire face à une telle résistance de la part des Ukrainiens. Ceci étant dit, le Kremlin a réaffirmé hier sa détermination à maintenir en Ukraine sa présence dans la durée. Et s'il le faut, à même aller jusqu'à prendre le contrôle total du pays. Ces termes très menaçants, ils ont été prononcés par le porte-parole du gouvernement russe, Dmitri Peskov. Je vous propose de l'écouter.
Au début de l'opération spéciale militaire, le président russe a effectivement donné l'ordre au ministère de la Défense de ne pas prendre d'assaut les grandes villes du pays, notamment la capitale Kiev. Malgré le fait qu'il y ait des groupes nationalistes armés qui équipent des postes de tir, placent du matériel militaire lourd en plein dans des bâtiments habités, ces actes de guerre dans des zones densément peuplées inévitablement vont conduire à de nombreuses morts chez les civils. Et l'opération spéciale militaire a été pensé en prenant en compte ce genre de circonstances. Mais le ministère de la Défense, en assurant la sécurité maximale des populations civiles, n'exclut pas la possibilité de prendre le contrôle total des grandes villes qui sont déjà encerclées, sauf pour les zones actuellement utilisées comme couloirs humanitaires pour les évacuations des civils. Il semble que les dirigeants des États-Unis et de l'Union européenne forcent la Russie à prendre d'assaut les grandes villes ukrainiennes afin de rendre notre pays responsable de la mort de civils. Nous pensons que ce positionnement est une provocation.
On vient donc d'entendre Dmitri Peskov, porte-parole du gouvernement russe. Ses propos étaient doublés par nos confrères de RFI. Toujours sur le dossier russo-ukrainien, plusieurs journaux américains assurent que la Russie a demandé l'aide de la Chine, notamment lui a demandé de lui fournir des armes et plus précisément des missiles. Une information démentie par la diplomatie chinoise, qualifiée par celle-ci de fake news à Pékin. La correspondance de Stéphane Lagarde pour RFI.
Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères ne dément pas l'information, mais quand arrive la question d'une demande par la Russie de matériel militaire à la Chine, il évoque une fausse nouvelle et parle même d'intentions malveillantes dans sa diffusion. Guerre des mots, l'administration Biden accuse la Chine de relayer la désinformation russe sur de pseudo-armes biologiques concoctées dans des laboratoires ukrainiens. Le pouvoir chinois vient de son côté d'accuser Washington de propager des contre-vérités sur le rôle de la Chine dans la guerre en Ukraine. À Rome, Chinois et Russes n'ont pas les mêmes priorités. La Maison-Blanche entend concentrer les discussions sur les répercussions de la guerre de Vladimir Poutine en Europe orientale en empêchant un soutien de la Chine à la Russie. Les dirigeants chinois ne veulent pas se laisser enfermer sur la question ukrainienne justement et poussent pour rester sur l'agenda initial d'une suite à donner aux accords conclus par Joe Biden et Xi Jinping en novembre dernier, donnant une amélioration des relations commerciales entre les deux premières puissances du monde contre une coopération accrue de la Chine sur la question ukrainienne. Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
La guerre entre la Russie et l'Ukraine inquiète également le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'exprimait à New York, a déploré que la perspective d'un conflit nucléaire fasse de nouveau partie du champ des possibles.
Ukraine is on fire. The country is being decimated before the eyes of the world. The impact on civilians is reaching terrifying proportions. Countless innocent people, including women and children, have been killed. Further escalation of the war, whether by accident or design, threatens all of humanity. Raising the alert of Russian nuclear forces is a bone-chilling development. The prospect of nuclear conflict, once unthinkable, is now back within the realm of possibility.
Et au cours de la même intervention, Antonio Guterres a en revanche de nouveau écarté l'idée de mettre en place une no-fly zone au-dessus de l'Ukraine, comme la réclame le président Zelensky, car il estime qu'une telle décision conduirait à accroître encore les tensions internationales et évidemment avec la Russie. Il a enfin annoncé le déblocage de 40 millions de dollars supplémentaires destinés à renforcer l'aide humanitaire en Ukraine à travers notamment la fourniture d'eau, de nourriture et de médicaments, mais aussi une aide financière pour les personnes les plus démunies. En République démocratique du Congo, 4 jours après le déraillement d'un train de marchandises qui a fait au moins 70 morts, les habitants de Lubumbashi, au sud-est du pays, sont en colère contre la compagnie de chemin de fer qu'ils accusent de négligence, mais aussi contre certains voyageurs qui prennent d'assaut les trains lorsqu'ils passent, et ce, même lorsque ces trains ne sont pas conçus pour transporter des passagers. À Lubumbashi, le reportage de Denise Maéo pour RFI.
L'accident de train de jeudi dernier est sur toutes les lèvres à Lubumbashi. La plupart des habitants sont en colère, vu le nombre de victimes. Gilbert Kyungu, un habitant de Lubumbashi.
C'est déplorable ces accidents à répétition sur les réseaux ferroviaires de la SNCC. La vétusté de la voie ferrée, je me dis que cela emportera toujours des vies humaines si la SNCC ne pense pas à un renouvellement de rail.
Pour Maître Sabin Mandé, avocat, des centaines de personnes vivant le long de la voie ferrée Kassai et du Katanga voyagent à bord des trains marchandises faute de mieux.
Malheureusement, il y a des trains voyageurs qui ne sont pas des trains réguliers. Aujourd'hui, il faut dire que ce train marchandises, des wagons qui rentrent parfois vides, prennent des gens et au lieu d'avoir des marchandises.
Karl Mwenze, militant des droits de l'homme, exige du gouvernement de revoir sa politique en matière de transport.
Que la vie des Congolais cesse d'être banalisée par le pouvoir public. Les 75 morts de plus qui s'ajoutent aux autres de tous les jours, c'est révoltant.
De son côté, le directeur général de la SNCC, Fabien Moutombe, assure que 4 trains voyageurs sont organisés sur ce tronçon. Il n'est donc pas normal que des clandestins prennent d'assaut le train marchandises en pleine nuit, au péril de leur vie, dit-il. Denise Mayo, Lubumbashi, RFI.
Et on reste en Afrique où, près d'un an après son enlèvement à Gao, au nord du Mali, une preuve de vie d'Olivier Dubois a enfin fait surface. Le journaliste, actuellement le seul otage français détenu dans le monde, avait été donc kidnappé le 8 avril 2021 par un groupe djihadiste. Un soulagement immense pour sa famille d'avoir enfin de ses nouvelles. Elle n'en avait eu aucune depuis mai 2021. On va maintenant en France où depuis hier lundi, le protocole sanitaire anti-Covid a été allégé, notamment dans les établissements scolaires. Parmi les restrictions levées, le port du masque obligatoire dans les lieux clos, une contrainte supprimée pour le plus grand plaisir des plus jeunes, c'est ce qu'a pu constater Sylvie Coffi pour RFI.
Après 2 ans passés avec un masque sur le nez et la bouche, Ziad respire enfin.
Bien sûr, je suis content, le masque c'est insupportable.
Un sentiment partagé par cet animateur.
Les enfants n'ont plus de masque. Souvent, ils avaient du mal à mettre correctement le masque, alors on était plutôt assez indulgents et on voulait leur expliquer sans trop les traumatiser. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'enfants là qui vont être très très contents de plus avoir le masque, de pouvoir respirer, de pouvoir courir et jouer librement.
À la sortie des cours, Marie-Lou, collégienne, remet tout de suite son masque pour nous parler et reste prudente.
C'est pas vraiment une bonne idée parce que le Covid existe toujours et qu'il y a encore plus de risques qu'il y ait des propagations dans les classes. Donc, par exemple, si quelqu'un est cas contact, toute la classe le saura plus rapidement.
Ancelle, quant à elle, en classe de 4e, a du mal à changer ses habitudes.
Au début, je voulais ne pas le porter en classe, comme ça on s'habituait tous à notre tête sans masque. Sauf que quand j'ai commencé à participer en classe, j'ai été très intimidée, je l'ai tout de suite remis. Voilà. Du coup, pendant les contrôles, etc., on fait vraiment des têtes très bizarres derrière le masque.
Quant aux professeurs, la plupart des collégiens constatent qu'ils gardent encore leur masque.
Et pour finir, on jette un œil à la météo du jour en Australie. 27 degrés aujourd'hui et des nuages à Perth. Le temps est moite à Adelaide avec 32 degrés, 27 à Melbourne où des averses sont attendues dans la journée, 25 degrés à Sydney, 28 à Brisbane et jusqu'à 34 degrés ce mardi à Darwin.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.